Accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour. 95 milliards d'euros, c'est le budget qu'alloue l'Europe au secteur de la recherche jusqu'en 2027. Des financements précieux auxquels les chercheurs anglais ont dû renoncer avec le Brexit, mais idem pour les chercheurs suisses. Il y a un peu plus d'un an, Bruxelles a décidé d'exclure la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, de son programme de recherche Horizon Europe. Concrètement, ça veut dire que les chercheurs installés dans la Confédération helvète ne peuvent plus bénéficier d'une bourse européenne, ni coordonner ou participer à des projets européens de recherche. Une décision lourde de conséquences qui se fait déjà sentir dans les universités. La Suisse redoute une fuite des cerveaux, Jérémy Lanche.
Officiellement, Sylvie Retailleau n'est pas venue à l'Université de Genève pour évoquer Horizon Europe. Non, si la ministre française de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait le déplacement, c'est pour parler coopération scientifique et mobilité étudiante. Mais l'exclusion de la Suisse du programme cadre européen pour la recherche, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Alors forcément, on a envie de demander à la ministre si elle ne trouve pas dommage que les chercheurs français et suisses ne puissent plus travailler ensemble.
Horizon Europe, c'est un programme européen, donc c'est l'Union européenne. C'est clair que la visite aujourd'hui était importante parce que les relations franco-suisses sont importantes. De garder ces relations, quel que soit, je dirais, Horizon Europe, etc. Je suis une européenne convaincue, donc je pense que la recherche est collective et on le voit. Si vous me posez cette question, c'est que c'est important.
Vous pouvez réessayer. Laissez-moi trouver une reformulation. Deux secondes.
Allez, on essaye.
Finalement, on ne retentera pas notre chance. Pas question, en effet, pour Sylvie Retailleau de la jouer solo sur un dossier collectif. La décision d'exclure la Suisse d'Horizon Europe a été prise par Bruxelles en 2021. Berne vient alors de claquer la porte de très longues négociations qui auraient permis à la Suisse d'accéder au marché unique. Mais la volonté des Suisses d'avoir un accès à la carte, un peu comme le réclamaient les Britanniques, ne passe pas. Pour exprimer son mécontentement, Bruxelles débranche donc l'accès suisse à Horizon, au grand dam du recteur de l'Université de Genève, Yves Flückiger.
Je crois effectivement que c'est une question européenne et il faut pouvoir convaincre l'ensemble des pays européens que la présence de la Suisse au sein du programme Horizon Europe permettra de faire en sorte que l'Europe sera plus forte par rapport à ses concurrents qui aujourd'hui sont la Chine, sont les États-Unis. Donc une Europe forte, c'est une Europe avec le Royaume-Uni, c'est une Europe avec la Suisse. Pour nous, vraiment, on est au centre de l'Europe et on veut continuer à jouer ce rôle effectivement de lien entre la science et la société européenne.
Horizon Europe, c'est 95 milliards d'euros destinés à la recherche pour le continent sur la période 2021-2027. Une perte colossale pour la Suisse, notamment pour la recherche quantique dont le pays est l'un des leaders mondiaux. Berne a bien tenté de compenser le manque à gagner avec des fonds débloqués en urgence, mais les sommes sont dérisoires. Résultat, les chercheurs et les entreprises cherchent tous une porte de sortie dans l'UE.
L'entreprise ID Quantique est vraiment le leader mondial de la communication quantique, a décidé d'ouvrir finalement une succursale à Vienne pour avoir ce pied en Europe. Donc c'est une centaine d'emplois. Évidemment que c'est sans emplois, on aurait bien aimé pouvoir les maintenir à Genève, en particulier parce qu'on sait très bien que quand il y a une université, il y a beaucoup plus de start-up qui se développent très en lien avec la recherche qui se réalise dans ces universités. Donc ce lien est très important.
L'inquiétude de la communauté scientifique est largement partagée, car sans l'appui d'Horizon Europe, les chances pour les chercheurs basés en Suisse de coordonner de grandes enquêtes internationales sont aussi réduites à peau de chagrin. Le dernier lauréat de la médaille Fields et qui travaille à Genève, le Français Hugo Dominil Copin a pu se rendre compte.
J'ai eu effectivement des gens qui m'ont fait part de leur peur de sortir du système européen en venant faire une thèse en Suisse, ce que je n'avais jamais vécu avant. Et je pense que ça arrivera de plus en plus parce qu'on crée une barrière, un écran de fumée entre les deux systèmes universitaires, alors qu'au contraire, ils devraient communiquer au maximum.
Et encore, le français l'admet, sa discipline, les mathématiques, n'est pas la plus touchée.
Je pense qu'au contraire, les mathématiques, puisque justement ayant besoin de moins de fonds, sont peut-être un petit peu préservées. Je sais que j'ai des retours de collègues beaucoup plus compliqués en termes d'expérimentateurs en particulier. Quand on pense à des grandes expériences, là c'est des millions qui sont utilisés. On doit construire à un endroit. Une fois que c'est construit à cet endroit-là, bah, c'est très dur de déplacer. Donc je pense que les sciences expérimentales vont souffrir beaucoup plus rapidement, même si tout le monde à long terme on souffrira, ce sera d'abord les sciences expérimentales qui vont ressortir les soubresauts.
Et pour être sûr de bien se faire comprendre, Bruxelles a même envoyé une lettre aux chercheurs suisses qui touchaient un financement européen en leur demandant de changer de pays s'ils souhaitent continuer à toucher des fonds. Dit autrement, le choix pour les scientifiques helvètes, c'est maintenant la bourse ou la Suisse.
Et depuis sa sortie de l'Union européenne il y a 3 ans, l'Angleterre réclame que Bruxelles débloque l'accès au programme de recherche scientifique européen pour les chercheurs britanniques en utilisant une provision de l'accord post-Brexit, sans succès pour le moment. Depuis la crise du Covid, l'Union européenne, on le sait, veut réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Asie en matière industrielle. Sont concernés notamment les semi-conducteurs, ces petits éléments essentiels pour l'industrie électronique et automobile. Depuis peu, l'Union européenne et les pays européens subventionnent donc l'implantation de nouveaux projets et l'Allemagne en profite particulièrement. Delphine Herbollier, vous êtes à Berlin. Plusieurs projets de méga-fabriques ont vu le jour ou ont été annoncés ces derniers temps.
La dernière annonce date du 1er février. L'américain Wolfspeed a annoncé vouloir ouvrir en Allemagne la plus grande usine au monde de semi-conducteurs en carbure de silicium. C'est un composant qui est central pour l'électrification des voitures. Wolfspeed pourrait investir 2,5 milliards d'euros dans la Sarre. C'est une région limitrophe de la France. Le site choisi est une ancienne centrale électrique qui fonctionnait au charbon. 1 millier de personnes pourraient y être embauchées d'ici 2027. Alors ce méga projet devrait bénéficier de subventions européennes et allemandes. Les chiffres en la matière ne sont pas encore connus et Bruxelles doit encore donner son aval. C'est en tout cas un projet très symbolique qui s'inscrit en plein dans la nouvelle stratégie européenne de produire 20% des semi-conducteurs mondiaux sur son sol d'ici 2030. C'est le fameux programme EU Chips Act qui doit être finalisé par l'Union européenne. Le chancelier allemand Olaf Scholz était présent début février lors de l'annonce de l'américain Wolfspeed et il a confirmé l'enjeu de tels projets pour l'Europe.
Cette nouvelle usine va contribuer à ce que notre industrie européenne soit approvisionnée de manière sûre en semi-conducteurs. Nous en avons vu l'importance en Allemagne et en Europe ces dernières années lorsque la chaîne d'approvisionnement, notamment dans les semi-conducteurs, s'est bloquée.
Ce projet dans la Sarre n'est pas le seul, Delphine, et on constate que la plupart des autres méga-fabriques s'implantent dans l'est de l'Allemagne. Comment ça s'explique ?
Oui, en effet, de nombreux projets voient le jour dans la Saxe et en Saxe-Anhalt. Par exemple, l'Allemand Infineon va investir 5 milliards d'euros dans un nouveau lieu de production à Dresde. L'Américain Global Foundries devrait mettre 1 milliard supplémentaire pour développer son site également à Dresde. Et le Taïwanais TSMC envisagerait de s'implanter lui aussi dans cette ville. Plus surprenant, on a appris l'an dernier que l'Américain Intel avait posé son dévolu sur la petite ville de Magdebourg pour un investissement record de 17 milliards d'euros. Alors pourquoi le choix de ces régions ? Une des raisons principales est que la Saxe et la ville de Dresde notamment se sont imposées ces dernières années comme un hub pour l'industrie électronique. On la surnomme, cette région, la Silicon Saxony. Elle produit déjà un tiers des semi-conducteurs made in Europe. Les régions limitrophes profitent aussi de cette ébullition. C'est ce que nous explique par téléphone Joachim Ragnitz. Il est économiste au centre IFO de Dresde.
L'un des points déterminants pour les grandes entreprises de semi-conducteurs qui veulent investir en Allemagne ou en Europe est de voir où se trouvent les infrastructures des entreprises avec lesquelles elles peuvent coopérer et faire de la recherche. L'Est de l'Allemagne est un des seuls lieux de ce type en Europe en ce qui concerne l'industrie des semi-conducteurs. Il y a le site de Grenoble en France et même la Belgique, mais ils sont moins importants. Le deuxième élément est que cette industrie est très énergivore. Or, l'Est de l'Allemagne est mieux pourvu en énergie renouvelable, qu'elle soit solaire ou éolienne.
Delphine, vous évoquiez les subventions européennes et nationales. Sans elles, ces projets auraient-ils vu le jour ?
Difficile à dire, mais les investisseurs confirment que ces aides financières sont centrales dans leur prise de décision. Dans le cas d'Intel à Magdebourg, on le voit bien, l'Américain fait monter les enchères. Il menace de changer d'avis si les autorités allemandes ne suivent pas. Cette tendance pourrait se renforcer parce que la concurrence mondiale augmente. Les États-Unis ont annoncé récemment 400 milliards de dollars d'investissement pour le climat. Cela fait augmenter la pression aussi en Europe.
Merci Delphine Herbollier en direct de Berlin. Il est une région en France où l'industrie est historiquement vitale. Dans la région des Hauts-de-France, l'industrie représente 17% des emplois, c'est-à-dire plus de 250 000 salariés dans près de 20 000 entreprises. Mais de plus en plus, ce secteur qui souffre d'une mauvaise image peine à recruter. Alors pour donner envie aux jeunes et demandeurs d'emploi de postuler dans le secteur, un camion aménagé en usine miniature sillonne les bassins d'emploi de la région. C'est la Fabrique 4.0, le reportage de Lise Verbeck.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans la Fabrique 4.0.
Le semi-remorque est garé cet après-midi-là à Hasbrouck, dans le Nord. À l'intérieur, environ 70 mètres carrés, aménagés comme une vraie usine. Et c'est Franck Devinck, l'un des animateurs techniques de la Fabrique 4.0, qui accueille les visiteurs.
Alors, ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle une île de fabrication ici. En fait, typiquement, vous êtes dans une usine. Et ce genre d'équipement, c'est ce qu'on retrouve dans nos usines qui nous permettent de fabriquer des choses en masse. Tout type d'équipement, tout type de produits, que ce soit de la nourriture, des vêtements, des gadgets ou de la cosmétique, c'est fait grâce à ce genre de machines.
Cette ligne robotisée fabrique des supports de téléphone et elle permet d'expliquer les différents métiers qui y interviennent.
La première étape ici, du coup, ça va être une étape automatisée où on va venir avec une caméra contrôler où sont les pièces sur le plateau blanc qui se trouve juste à côté. Nous, ce qu'on fait en tant qu'opérateur, c'est qu'on va passer la commande. Je voudrais telle pièce rouge et telle pièce verte. On va donner les informations au logiciel et le logiciel va produire par la suite. Ensuite, une fois qu'on a du coup trouvé la pièce, on va prendre la pièce qui ressemble à une forme de champignon, qui est une des parties de la pièce, et on va faire un travail d'usinage sur le poste d'usinage qui se trouve au milieu de la ligne de fabrication. Le métier d'usinage, c'est un métier qui est très répandu dans l'industrie, et donc par la machine, on va pouvoir leur expliquer le principe de l'usinage qui est de retirer de la matière métallique sur une pièce.
Depuis un an, la mini-usine stationne un peu partout dans la région. 10 000 personnes l'ont déjà visitée, des demandeurs d'emploi, mais aussi beaucoup de scolaires, collégiens, lycéens, car l'équipe du projet a beaucoup travaillé avec le rectorat, les missions locales, les conseillers d'orientation. Un outil concret qui parle très vite aux visiteurs. Benoît Bartou, le chef de projet.
Souvent, c'est « Ah, c'est ça ». C'est la première action. Alors, il y a le « Waouh » quand on rentre. Et il y a le « Ah, c'est ça l'industrie », c'est-à-dire qu'enfin, on leur montre réellement ce que c'est. C'est vraiment ça l'intérêt. Ce qui est très drôle, vous voyez des jeunes qui rentrent, ils ne s'attendent absolument pas à ça, qu'ils me disent « L'industrie, je ne connais pas ». Et quand ils rentrent, c'est « Ah, ben, je crois que mon père fait ça ». Parce qu'ils ne connaissent pas non plus le métier de leurs parents parfois. Parce qu'il y a ce manque d'informations sur l'entreprise, sur les métiers. Et donc, ils ont un vrai échange ici. Ils voient concrètement et donc ils ressortent avec « Ah, finalement, c'est peut-être pour moi ». Les noms de nos métiers ne veulent pas dire grand-chose. Un conducteur de ligne automatisée, un pilote de ligne, ça ne veut rien dire pour un demandeur d'emploi. Donc ici, on arrive à démystifier aussi le nom du métier par rapport à son application de tous les jours. On n'est pas sur une feuille d'information, sur une fiche papier, on est sur de l'information concrète.
Et en fait, vous verrez, les robots ils se mettent en service. Vous allez voir tout le processus de fabrication d'une pièce.
Dans l'industrie, il y a plus de 150 métiers différents, et notamment l'informatique dans des sites de plus en plus techniques et connectés. Et ça, les jeunes n'en ont pas conscience, d'après l'animateur technique.
On a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par l'informatique parce que c'est le mouvement actuel. Donc ils ont l'informatique des jeux vidéo, l'informatique des sites web. Mais ils n'ont pas connaissance que dans l'industrie, plus on avance dans l'industrie, plus on va vers l'informatique, où on développe des super logiciels pour qu'on puisse produire en masse. Et donc là, le fait de leur expliquer que l'informatique, on peut trouver des dérivés qui sont tournés industriels, ça peut leur ouvrir des débouchés. Ils étaient intéressés par exemple peut-être par l'informatique et l'armée. Et bien en fait, il existe l'informatique liée à l'armée. et c'est industriel.
Dans l'espace recherche et développement aménagé au fond du semi-remorque, Tori, 12 ans, est fascinée par l'imprimante 3D et l'hologramme.
C'est impressionnant. Et je pensais pas que ça allait faire tout ça, surtout c'est des ordi. Du coup, je trouve ça cool.
Toi, c'est les ordinateurs qui t'intéressent, t'aimerais bien aller dans cette voie-là ?
Oui.
Est-ce que tu imaginais que dans une usine, il y avait besoin du coup beaucoup d'informatique pour piloter toutes ces machines ? Il y avait l'informatique derrière ?
Non, je pensais pas. Enfin, je pensais un peu, mais moins que tout ça.
La mini-usine permet aussi de casser les idées reçues sur l'industrie. David vient de terminer sa formation de chaudronnier.
J'avais une sale image de l'industrie. Je me disais que c'était un métier pénible parce qu'il fallait porter, c'était des charges lourdes. Mais lorsque je me suis investi là-dedans, j'ai bien compris et j'ai remarqué qu'avec le développement de l'industrie, ce n'est pas du tout la même chose que je croyais parce qu'actuellement, il y a des machines qui nous permettent de porter des charges lourdes. Et le travail est mieux qu'il y a peut-être 50 ans.
Dans la région des Hauts-de-France, l'industrie recrute 45 000 personnes chaque année et les offres d'emploi ne trouvent pas toujours preneurs.
Bon, on a une pyramide des âges qui est plutôt âgée, surtout sur certains métiers comme la chaudronnerie, comme l'usinage et autres.
Olivier Hutin, le président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie.
Donc il faut prévoir effectivement à l'avance plus de développement. On a quand même 4 gigafactories, usines de batteries qui vont employer plus de 6 000 personnes dans le territoire des Hauts-de-France. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte.
La mini-usine va continuer de sillonner les Hauts-de-France pendant encore 4 ans. Le carnet des visites scolaires est rempli jusqu'à septembre prochain.
Elle est le nouveau visage de la gauche en Italie. Elie Schlein, la première femme à diriger le Parti démocrate italien, succède à l'ancien Premier ministre Enrico Letta. Du haut de ses 37 ans, la jeune femme qui se dit féministe et bisexuelle fait figure d'ovni dans le paysage politique italien. Son portrait par Romain Lemaresquier.
On la présente souvent comme étant l'anti-Meloni, comme l'avait écrit en 2022 le magazine américain Vanity Fair. Elie Schlein, née à Lugano en Suisse, dans le canton du Tessin, à la frontière avec l'Italie, détonne dans le panorama politique italien. C'est en tout cas l'avis de Giuseppe Bettoni, professeur de géopolitique à l'université Tor Vergata de Rome, ainsi qu'à l'université Jean Jaurès de Toulouse.
Elie Schlein est un personnage qui vraiment sort d'une manière soudaine dans le paysage italien. C'est quelqu'un qui a toujours été sensible au côté social, politique, etc., sans faire le parcours classique des autres personnages. Et c'est une grande nouveauté qui avait attiré les Italiens par cette figure. Donc c'est un profil qu'on n'imaginerait pas.
Très engagé socialement, mais aussi politiquement, dès son plus jeune âge, comme le détaille Hervé Reiner, Elie Schlein s'est lancé en politique à l'étranger, explique ce spécialiste de l'Italie contemporaine, professeur à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne.
Elle a fait ses premières armes véritablement en politique, à l'étranger en l'occurrence aux États-Unis et à Chicago en particulier, dans le cadre des campagnes pour les primaires démocrates en 2008 en faveur de Barack Obama. Et puis, elle remet ça en 2012 pour la réélection du président sortant Obama.
De retour en Italie, elle devient membre du Parti démocrate avant de le quitter, car pas suffisamment à gauche selon elle. Élue en 2014 députée européenne, elle continue de graviter autour de cette formation politique en perte de vitesse. Nommée vice-présidente de la région d'Émilie-Romagne en 2020, Elie Schlein commence alors son ascension et se fait connaître des électeurs italiens, notamment en déclarant sa bisexualité lors d'une émission télévisée. Une orientation qu'elle dit assumer pleinement, tout comme son positionnement en faveur des migrants. Élue députée en septembre dernier, elle se positionne ensuite pour prendre les rênes du Parti démocrate. Désormais à la tête de cette formation, Elie Schlein va certainement lui donner une orientation plus à gauche, ce qui a déjà provoqué le départ de certains membres du parti. Mais ce virage est également attendu par nombre d'électeurs italiens, Hervé Reiner.
Certains parlent d'un rebond de l'intérêt de nouvelles inscriptions au parti dans le sillage de ses primaires. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup d'atouts pour incarner la nouveauté. Première femme à la tête de ce parti, sa jeunesse, 37 ans, ce qui la rapproche aussi de Giorgia Meloni. Et puis, voilà, le fait qu'elle vienne en quelque sorte de la base étudiante, mouvementiste, si je puis dire, du Partito Democratico, ça change beaucoup de secrétaire assez âgé ou alors positionné au centre. Donc, en cela, c'est un tournant, en quelque sorte.
Elie Schlein, l'anti-Meloni, bisexuel, pro-migrant, en faveur des droits de la communauté LGBTI, va devoir s'atteler à la tâche tout de suite, car car des élections européennes se profilent, des élections qui pourraient bien confirmer son statut de leader de la gauche dans la classe politique italienne, ou alors y mettre un terme si le Parti démocrate ne franchit pas la barre des 20% des suffrages, même si selon Giuseppe Bettoni, le Parti démocrate n'a aucun intérêt à écarter la nouvelle égérie de la gauche.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous partout et à toute heure sur notre site internet ou en podcast sur votre plateforme d'écoute. À demain.